L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Bonjour à tous.
Ce 6 décembre, les chrétiens orthodoxes et catholiques ont célébré la fête de Saint Nicolas, l'archevêque de Myre, le thaumaturge. Le samedi, un grand pèlerinage œcuménique a eu lieu à la basilique de Saint Nicolas de Port, où se trouve une relique de ce saint patron de la Lorraine. J'ai eu la joie de participer à ce pèlerinage et je vais vous présenter aujourd'hui des témoignages de participants, prêtres et fidèles orthodoxes, français, roumains et russes, et de l'évêque catholique de Nancy. Mais d'abord, cette fête me rappelle des beaux souvenirs d'enfance, des traditions anciennes de Roumanie que même le régime communiste n'a pas réussi à supprimer. Comme tous les enfants roumains, le soir de Saint-Nicolas, je préparais mes bottines près de la porte de l'appartement pour retrouver ensuite les cadeaux du Père Nicolas, des fruits et des bonbons, qui annonçaient déjà les grands cadeaux du soir de Noël. Depuis, je me suis souvent demandé, comme de nombreux enfants du monde entier, quelle est la vraie histoire de Saint-Nicolas et de Père Noël. Je l'ai recherché parmi des écrits anciens et des traditions de divers pays, mais je l'ai compris davantage pendant ma récente visite en Lorraine, le pays de Saint-Nicolas en France. Ainsi, je vais essayer de reconstituer brièvement pour vous cette histoire qui s'étend à travers 16 siècles jusqu'à nos jours et qui couvre aussi bien l'Orient que l'Occident chrétien. Saint-Nicolas a vécu au IVe siècle et a été archevêque de Myre, un port de la province de Lycie, dans la partie orientale de l'Empire romain, où se trouve aujourd'hui la Turquie. Colonne vivante de l'Église par son zèle à défendre la foi et modèle des hiérarques par son soin pastoral, notre Saint-Père Nicolas s'est montré généreux intendant de la grâce de Dieu par ses innombrables miracles en faveur des pauvres, des délaissés, de ceux qui souffrent l'injustice et de tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, réclament sa paternelle protection. C'est pour cela qu'il est appelé thaumaturge, ce que veut dire en grec « celui qui fait des miracles ». Voici, tels que sont présentés dans sa vie, écrite dès le 5e siècle, quelques-unes de ses miracles et bonnes actions qui sont à l'origine des diverses manières de vénération du saint. Saint Nicolas s'est montré à des marins naufragés qui appelaient son nom dans leurs prières et il les a sauvés de la mort. Les Grecs le célèbrent toujours comme protecteur des navigateurs. Pour échapper de la pauvreté, un père de Myre pensait envoyer ses trois filles se prostituer. Mais l'archevêque de Myre lui a jeté discrètement sur la fenêtre, en trois reprises, des bourses pleines de pièces d'or pour marier chacune des filles. Seulement la troisième fois, il a été aperçu par le père, qui, ensuite, a raconté comment ses filles ont été sauvées du péché. C'est pour cela que les Roumains vénèrent Saint Nicolas comme protecteur du mariage et de la famille. Cet événement est également à l'origine de la tradition d'apporter des cadeaux aux enfants à l'occasion de la fête de Saint Nicolas, en Roumanie comme en Lorraine et en d'autres régions du monde.
Et qui ne sait pas à
325, l'archevêque de Myre a été parmi les 318 évêques de tout le monde chrétien qui ont participé au premier concile œcuménique à Nicée. C'était la seule fois dans sa vie qu'un saint Nicolas, renommé pour sa douceur exemplaire, a donné une gifle à un homme, à l'hérésiarque Arius, quand il l'a entendu proférer sa doctrine injurieuse contre la divinité du Christ. C'est un épisode de sa vie qui pourrait être à l'origine du père fouettard Laurent qui, habillé en noir et agitant son fouet, punissent les mauvaises actions. En Roumanie, les enfants savent que, s'ils ne sont pas sages, Père Nicolas ne va pas leur apporter des cadeaux, mais un bâton pour être réprimandé. Dans sa vie, nous est raconté un événement important pour la manière dont il sera vénéré en Occident. Saint Nicolas a sauvé 3 hommes de Myre, qui étaient condamnés à mort injustement, en se rendant sur le lieu de l'exécution et en arrêtant le bourreau. 3 généraux ont assisté à cet événement avant de rentrer à Constantinople, où ils ont été eux-mêmes condamnés à mort injustement suite à une calomnie. Mais l'archevêque de Myre a répondu à leurs prières et s'est montré en rêve à l'empereur Constantin en lui ordonnant de libérer les 3 généraux innocents. Cet événement sera compris différemment après l'arrivée de saint Nicolas en Occident. Car en 1087, quelques années après le schisme de 1054 qui a séparé l'Occident de l'Orient chrétien, les croisés ont amené le corps de saint Nicolas à Bari, au sud de l'Italie, où il repose jusqu'aujourd'hui dans la crypte de la basilique saint Nicolas. À cette occasion, le chevalier Aubert de Varangéville a apporté à Port, en Lorraine, une phalange de saint Nicolas. Un pèlerinage s'est développé rapidement autour de cette relique, nécessitant la construction d'une nouvelle église à la fin du XIIe siècle, puis d'une troisième, la Grande Église, à la fin du XVe siècle, que nous pouvons admirer aujourd'hui. C'était l'époque où, en 1477, les troupes lorraines du duc René II, parties de Saint-Nicolas-de-Port et placées sous la protection du saint, sont victorieuses de celles de la Bourgogne aux portes de Nancy. Ainsi, Saint-Nicolas, le protecteur de la famille ducale, devient le saint patron officiel du duché de Lorraine. Avec ses reliques, des icônes de Saint-Nicolas sont arrivées de l'Orient chrétien orthodoxe en Occident. Parfois, l'icône du saint était entourée par la Vita, une succession de petites scènes qui présentaient la vie du saint. Dans ces scènes sont montrés aussi les miracles que j'ai mentionnés, et surtout saint Nicolas qui arrête le glaive du bourreau en sauvant la vie de 3 hommes qui sont à ses pieds. Cette image nous présente d'habitude saint Nicolas plus grand et plus haut que les 3 condamnés. C'est pour cela qu'en Occident, les chrétiens ont pensé qu'il s'agit de 3 enfants, et une nouvelle légende est née. Ainsi, on dit qu'un méchant boucher a tué 3 enfants, a coupé leur corps en morceaux et les a mis dans une cuveau. Mais saint Nicolas est venu et a ressuscité les enfants. Cette scène est souvent représentée dans l'iconographie occidentale. Saint Nicolas bénit 3 petits enfants qui se trouvent dans un cuveau à ses pieds. La légende s'est rajoutée au miracle posthume de saint Nicolas qui a libéré un garçon pris en captivité par les Arabes et l'a donné à ses parents le jour de sa fête. Ainsi, en Occident, saint Nicolas est devenu surtout le protecteur des enfants, des écoliers, qui l'attend pour leur distribuer des friandises. Mais depuis quelques années, de nombreux chrétiens orthodoxes arrivent en Lorraine des pays de l'Est et ils sont contents de découvrir ici la vénération de saint Nicolas qui est si populaire chez eux. Ainsi, en 1998, le prêtre roumain Florian Duță et des fidèles orthodoxes français et roumains ont créé à Nancy une paroisse orthodoxe franco-roumaine dédiée à saint Nicolas qui est abritée par la crypte de l'église catholique Saint-Pierre. Samedi soir, comme depuis quelques années, des dizaines de fidèles orthodoxes roumains, français, russes et britanniques, avec des prêtres orthodoxes de Nancy, Metz, Strasbourg et Mulhouse, ont célébré dans cette paroisse l'acatiste de saint Nicolas et ensuite ils sont allés participer au pèlerinage œcuménique à sa relique de la basilique de saint Nicolas de Port. Sur la paroisse orthodoxe franco-roumaine de Nancy, je me suis entretenu avec le jeune prêtre roumain Georges Dacian Zuba et avec l'hypodiacre français Jean-Claude Hippot. J'ai demandé d'abord à Jean-Claude Hippot de nous parler du début de cette paroisse, dont il est un des fondateurs.
C'est à la suite d'un banquet qui a suivi un baptême à Strasbourg que plusieurs orthodoxes français ont fait part au père Florian qui était présent de leur désarroi de ne pas avoir de paroisse dans le secteur de Metz et Nancy. Donc à la suite de cette initiative, le père Florian, avec l'accord de Mgr Joseph, a créé la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul et Saint-Nicolas de Nancy.
Quelle est la situation actuelle de la paroisse orthodoxe franco-roumaine de Nancy ?
La situation actuelle, comprend une régularité d'office, des offices. Donc chaque dimanche, des offices liturgiques, la divine liturgie, dans cette paroisse depuis novembre 2004. Et moi, en tant que deuxième prêtre, aidant Père Florian, qui a fondé cette paroisse, on continue et on essaie d'arriver dans une régularité et normalité de la vie liturgique de tous les points de vue, aussi du point de vue de l'Eucharistie, le centre de notre vie et la communion, mais aussi du point de vue communautaire, sur tous ces aspects sociaux, entraide, pèlerinage, sortie et d'autres manifestations autour de l'Église, ou comme on dit souvent, une liturgie d'après la liturgie.
Jean-Claude Hippot, vous êtes français et orthodoxe, vous êtes parmi les fondateurs de cette paroisse. Depuis la fondation de la paroisse orthodoxe franco-roumaine de Nancy, les Français et les Roumains orthodoxes ont cohabité ensemble. Comment se passe cette cohabitation ?
La cohabitation se passe très bien, les offices sont en langue française et roumaine. On essaie d'équilibrer les chants en français et en roumain, ou les textes de la liturgie. Quand je dis en français, ce n'est pas que pour les Français simplement, c'est pour tous les francophones. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent d'autres pays pour des raisons ou une autre dans notre région et qui parlent français.
La paroisse orthodoxe franco-roumaine Saint-Pierre et Paul de Nancy a rajouté aussi comme fête patronale la fête de Saint-Nicolas. Père Georges Dacian, quelle est l'origine de cette initiative ?
Comme toute initiative et comme toute décision dans l'Église orthodoxe, c'est une initiative ecclésiastique dans notre Église. On a discuté et on a décidé d'une façon spontanée qu'il faut faire quelque chose pour Saint-Nicolas. Et ensuite, pendant la dernière assemblée de la paroisse, on a décidé ça. On a voté pour prendre Saint-Nicolas comme patron, comme deuxième patron de la paroisse. Ce qui était une validation d'un désir et d'une volonté, d'une piété qui s'est manifestée dans la paroisse depuis un bon moment, depuis plusieurs années. Ensuite, il y avait le contexte de notre paroisse, ça veut dire la proximité avec les reliques de Saint-Nicolas de Port, à quelques kilomètres de Nancy, et l'affinité, la sympathie avec la communauté et le prêtre de cette paroisse catholique. Et tous les échanges, toutes les expériences, les pèlerinages qui ont été faits avant.
Jean-Claude Hippot, vous connaissez bien la situation de la paroisse catholique, de la basilique de Saint-Nicolas-du-Port, et l'histoire de ce pèlerinage qui a pratiquement été renouvelé depuis quelques années grâce au recteur de cette paroisse. Parlez-nous s'il vous plaît un petit peu de cette situation.
Oui, la basilique Saint-Nicolas de Port était bombardée et était très dégradée après la guerre de 1945. Et une riche américaine originaire de la région de Saint-Nicolas de Port a légué son testament pour refaire cette basilique. Donc cette basilique, depuis une dizaine d'années, est dans l'état qu'on la voit aujourd'hui. Le père Jean-Louis Jacot, qui est le recteur de la paroisse, nous a toujours très bien accueillis. La procession aux reliques de Saint-Nicolas a plus de 700 ans, donc c'est une longue lignée, une tradition en Lorraine. Donc la basilique, à chaque procession, est de plus en plus pleine et de plus en plus écuménique. Enfin, disons qu'il y a beaucoup d'orthodoxes, et bien sûr des catholiques, dans cette procession.
Sfatul necredit.
la grande basilique de Saint-Nicolas de Port était archipleine des fidèles catholiques et orthodoxes venus du monde entier pour ce pèlerinage. Des cierges allumés à la main, ils ont tous participé à la procession organisée à l'intérieur de la basilique avec la relique et des statues de Saint-Nicolas. Tous élevaient les cierges quand ils chantaient ce refrain de l'hymne de procession. « Saint-Nicolas, ton crédit d'âge en âge a fait pleuvoir tes bienfaits souverains. Viens, couvre encore de ton doux patronage tes vieux amis, les enfants de Lorrain. » Je demandai à l'évêque du lieu, Monseigneur Jean-Louis Papin, évêque de Nancy et de Toul, de nous parler de l'histoire de ce pèlerinage.
C'était une très ancienne tradition qui remonte au Moyen-Âge, à l'époque pratiquement des croisades, lorsque les croisés ont voulu préserver le tombeau de Saint-Nicolas de l'invasion des peuples islamiques. Ils ont ramené son corps dans le sud de l'Italie, à Bari. Et comme c'était un peu la coutume à l'époque, chacun des croisés voulait ramener quelques souvenirs, quelques reliques de la Palestine où il était allé défendre le tombeau du Christ. Et l'un des chevaliers, originaire de la Lorraine, a ramené une phalange, un petit bout d'ossement du corps de Saint-Nicolas, et il l'a rapporté ici, en Lorraine, à Saint-Nicolas de Port. Et au départ, cette relique était déposée dans une petite chapelle, et très rapidement, les pèlerins sont venus vénérer cette relique. Ils sont venus de plus en plus nombreux, de telle sorte que la petite chapelle était trop petite pour accueillir tout le monde, et on a construit alors cette magnifique et très grande basilique que nous connaissons actuellement et qui a été rénovée ces 20 dernières années grâce au legs d'une femme originaire de Saint-Nicolas-de-Port, mais qui à 18-19 ans était partie aux États-Unis, a épousé un Américain qui avait une grande fortune et elle n'avait pas d'enfant. Lorsqu'elle est décédée, elle a donné tout son argent pour rénover cette basilique de Saint-Nicolas-de-Port, qui aujourd'hui est vraiment l'un des plus beaux édifices cultuels de la Meurthe-et-Moselle, du diocèse de Nancy.
En participant à ce pèlerinage, j'étais impressionné de la ferveur religieuse des Lorrains, de leur attachement à une tradition ancestrale qu'ils répètent chaque année dans les moindres détails, tout ce pèlerinage autour de la relique de Saint-Nicolas. Les orthodoxes aussi se sont ralliés à ce pèlerinage parce que pour les orthodoxes, un pèlerinage aux reliques d'un saint a une très grande importance. Comment vous expliquez cette ferveur particulière et cet attachement de Lorrains par rapport au pèlerinage de Saint-Nicolas?
Oui, on voit chaque année cette grande ferveur dans la célébration et surtout dans la procession au flambeau. Alors je crois qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent cela. D'une part, je crois qu'il y a quelque chose qui relève de l'affirmation de l'identité lorraine. Saint-Nicolas est patron de la Lorraine. Et les Lorrains sont très attachés à ce patronage, quel que soit leur âge. Vous avez vu, lors de cette célébration, il y a toutes les générations qui sont là, les petits-enfants, les adolescents, les jeunes couples, les jeunes parents et les personnes âgées. Tout le monde est là, réuni dans une même ferveur, et ça n'est pas si habituel que cela de trouver une telle diversité rassemblée dans les églises, notamment en France, en Occident, où l'on souffre beaucoup du manque des jeunes. Eh bien là, les jeunes, ils sont là. C'est une première chose. Une seconde chose, une seconde raison à cette ferveur, je crois que la figure de Saint-Nicolas, c'est une figure de, comment dirais-je, de quelqu'un de très attentif aux souffrances, aux misères que peuvent connaître les gens aujourd'hui. Il est le patron des prisonniers, il est le patron de toutes les personnes qui circulent par les airs, par la route, par la mer. Il est le défenseur de tous ceux qui sont dans la désespérance. Et aujourd'hui, comme à toutes les époques d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de désespérance que connaissent les gens. Et je pense que les Lorrains, et beaucoup plus que les Lorrains d'ailleurs, reconnaissent en la figure de Saint-Nicolas un intercesseur. Et puis, il y a, comme vous l'avez signalé, une caractéristique tout à fait importante aujourd'hui de la figure de Saint-Nicolas, c'est le pont qui peut permettre entre l'Orient et l'Occident, entre les chrétiens orthodoxes et les chrétiens, je dirais, latins. Je pense qu'aujourd'hui, où on est très sensible à l'unité de tous les disciples du Christ, eh bien, du coup, la figure de Saint Nicolas qui réunit les uns et les autres prend une grande importance. Et je crois qu'il prend encore une plus grande importance au moment où on construit l'Europe. L'Europe est difficile à réaliser, on le voit, on l'a vu avec en France l'échec du référendum. Or, l'Europe, elle est constituée de quoi ? Dans son identité profonde, eh bien, de chrétiens latins et de chrétiens orientaux. Alors, je pense que la figure de Saint Nicolas aussi est une belle figure pour nous appeler et nous aider à construire l'Europe, à réunir les deux aspects, les deux grandes sensibilités de l'identité européenne. Je suis là depuis maintenant, ça fait la 7e année, j'ai toujours vu les chrétiens orthodoxes présents à ce pèlerinage, qu'ils soient, ce soit les orthodoxes roumains ou russes ou ukrainiens qui sont là, mais je crois que c'est plus ancien. Cela provient pour une part de la sensibilité de l'actuel recteur de la basilique à tout ce qui relève de l'orthodoxie. Nous avons ainsi accueilli Mgr Joseph, qui est l'archevêque des Roumains d'Europe occidentale, qui est venu une fois prononcer l'homélie au cours de ce grand pèlerinage. Oui,
parmi les participants à ce pèlerinage, j'ai rencontré le prêtre russe Nicolas Nikishin de la paroisse orthodoxe des 300 hiérarques de Paris, qui appartient au diocèse du patriarcat de Moscou en France. Il était venu avec des fidèles russes de Paris et de la région de Lorraine. Les Russes vénèrent Saint Nicolas surtout comme protecteur des récoltes. J'ai demandé au père Nicolas de nous dire comment est née l'initiative de participer à ce pèlerinage.
À un moment donné, justement, ça s'est passé déjà il y a 6 ans, on s'est rendu compte que Saint-Nicolas de Port, c'est un des grands lieux saints, pas seulement de la France, mais on peut dire même de l'orthodoxie. Et disons, si on le compare avec Bari, où sont les reliques principales de Saint-Nicolas, c'est le deuxième lieu par importance, mais si on parle de l'Allemagne, d'Alsace, de Lorraine, pour eux, c'est peut-être le plus grand lieu lié avec Saint-Nicolas. Donc, quand on s'est rendu compte, justement, de cette chose, donc là, on était interpellés. Qu'est-ce que nous faisons ici? Et ça, c'est peut-être un des grands principes de la vie spirituelle dans l'Église orthodoxe, qu'il faut puiser de la grâce qui s'est manifestée dans les lieux où nous habitons. Et donc, c'est pourquoi ça a été naturel, d'abord, de venir tout simplement comme pèlerin simple, justement pour vénérer et pour prier Saint-Nicolas, à Saint-Nicolas-de-Port. Donc, cette prière régulière, déjà, elle a commencé depuis 3 ans, et depuis 2 ans, peut-être, nous célébrons, y célébrons déjà une fois par mois les liturgies. En plus du fait que, disons, de l'importance, je ne dis pas œcuménique au sens, importance de Saint-Nicolas pour tous les chrétiens, qu'importe leur dénomination, donc notre désir aussi a été aussi de s'associer justement avec les catholiques, justement, lors de leur célébration, lors de leur vénération de Saint-Nicolas, surtout le jour de Saint-Nicolas. Ça aussi, c'est un autre, peut-être, grand principe de la vie spirituelle dans l'Église orthodoxe, que nous devons témoigner de notre orthodoxie, disons, à tous et à toutes, s'ils le désirent, et justement, ici c'est possible.
Où est-ce que vous célébrez une fois par mois la Divine Liturgie ?
Nous avons un accord avec le curé de la basilique de Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port, Père Jean-Louis Jacquot, que à l'exemple de ce qui se passe à Paris, donc il nous a fixé une chapelle où les orthodoxes peuvent vénérer Saint-Nicolas selon leur, les formes liturgiques qui sont propres à l'Église orthodoxe et sont les règlements canoniques en vigueur. En été, nous célébrons cette liturgie de la chapelle des Fonts, qui pour nous, c'est un autre signe très précieux, parce que ça c'est la partie la plus ancienne, disons, de cette basilique. Et bon, et en hiver, pour des raisons pratiques, du fait que cette chapelle n'est pas chauffée, nous célébrons de la chapelle d'hiver, en profitant de l'hospitalité de la communauté catholique.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des moines des monastères Simonos Petra au Mont Athos et Saint-Anton le Grand dans le Vercors, la chorale Saint-Jean d'Amassène de Paris, les groupes de chants byzantins Studion de France et Stavropoleos de Roumanie et le chœur des moines bénédictins de l'abbaye d'Ancalcat.
Le réalisateur de l'émission, Bogdan Florin Vlaicu, vous souhaite une bonne semaine remplie de joie spirituelle et vous donne rendez-vous durant toute la semaine sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.